Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Crème de la Crème sur Canal B, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 18h-19h. Bon, cette semaine, ça sera pas tous les jours, hein. Ça seront seulement lundi, mardi et mercredi, et puis de rediffusion mardi, mercredi et jeudi matin qui vous seront proposés. Vous retrouverez comme d'habitude dans Crème de la Crème 3 rubriques, des infos-concerts en fin d'émission tout à l'heure, où j'évoquerai notamment la venue de Gabriel Naïm Amor à la Mimobile le samedi 20 mai, ou bien la fête de la Bretagne un peu particulière à la ferme de Quincé le même soir, samedi 20 mai. Puis on terminera avec un concert proposé par les Trans qui présente bientôt l'été avec Lemeur, Caboché et Célélé. Tout ça pour votre plus grand plaisir à l'Ubu le jeudi 8 juin. Avant ça, dans la page culture, eh bien Ronan nous parlera de la création Paul, Louis, Suzy et moi par la compagnie Felmur avec Gueltaz Chauviré à la mise en scène, mais qui est aussi co-auteur et comédien sur cette création-ci, qui existe aussi d'ailleurs en album vinyle. Et puis vous retrouverez quelques nouveautés brûlantes comme par exemple Egyptian Blue, Calibro 35, ou bien pour commencer le groupe Automatic City. C'est leur album Humdrum qui sera disque d'or cette semaine dans Crème de la Crème. Un album qui nous permet d'entendre du groove en fusion la plupart du temps. Ça va un peu dans tous les sens, entre rhythm and blues, funk, soul, tous passés à travers le prisme du duo Automatic City. On les connaissait déjà à travers leur précédent album. C'est leur quatrième, il faut le dire, Automatic City. Mais c'est surtout avec les albums Bongos and Tremolos et puis Triple Ripple qu'on les avait découverts. Un duo qui est à la base de ce groupe-là. Il s'appelle pour l'un Emmanuel Mercier et pour l'autre Éric Dupéret, et aime à nous faire danser sur des morceaux qui viennent de différentes esthétiques musicales, hein, rhythm and blues, musique de film, funk. Il n'y a que quelques morceaux originaux qu'on doit au duo, et les autres ce sont des reprises, avec notamment cette reprise d'un morceau de Chuck Berry, Downbound Train, complètement transformé par Automatic City. On les écoute. Bonne émission. Les Italiens de Calibro 35 arrivent avec un nouvel album à la fin du mois de juin intitulé Nouvelles Aventures et on le retrouvera comme d'habitude sur le label Record Kicks. Ils s'aventurent justement vers des rencontres entre funk, jazz, funk progressif, j'ai l'impression, et sont assez cinématographiques. Ça fait plus de 15 ans qu'on les connaît, les Calibro 35, et ils ne nous déçoivent jamais. Ils ont emprunté à Giorgi Ligeti hein, ce nom Nouvelles Aventures, et on les écoutait à l'instant avec l'un des premiers singles extraits de cet album, le titre Extraordinaire. On poursuit Crème de la Crème maintenant avec les Anglais de Egyptian Blue. Vous les avez peut-être vus à l'UBU tout récemment. Ils annoncent une gigantesque tournée au Royaume-Uni et aussi en Europe pour le mois de novembre. On les entend avec ce nouveau single Matador, une sortie toute récente du 2 mai pour le label Liala Records. C'est parti avec Egyptian Blue et puis juste après, la machine à remonter le son, c'est la 30e du nom qui nous attend pour découvrir quelle année on a choisi complètement au hasard cette semaine.
Thank you.
Vous entendiez à l'instant un premier titre pour l'année qu'on découvrira toute cette semaine, en tout cas lundi, mardi et mercredi, l'année 1984, grâce à la machine à remonter le son. On était en Angleterre avec ce groupe originaire de Londres, les 23 Skidoo. Ils ont commencé en 1979 leurs aventures musicales entre expérimentation et puis emprunt au dub, à la musique industrielle. Un des groupes majeurs du mouvement dit post-punk en Angleterre, aux côtés de groupes comme A Certain Ratio, Throbbing Gristle, de pop group par exemple. On les entendait à l'instant avec un titre sorti en format single en 1984, le morceau Coupe. On retrouve la machine à remonter le son, 30e du nom, pour une deuxième proposition dans l'émission de mardi. Mais pour l'instant, on poursuit avec la page culture de Crème de la Crème. C'est le retour de Ronan dans Crème de la Crème. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Qui vous parlera théâtre, mais c'est peut-être un peu plus complexe que ça finalement, avec la compagnie Felmur et Gueltaz Chauviré que tu as pu rencontrer dernièrement. Tu nous dis tout.
Oui, eh bien, pour être tout à fait honnête, je vais vous parler de Paul, Louis, Suzy et moi. Et c'est un spectacle que j'aurais dû voir le jeudi 9 mars au Reux, mais je n'ai pas pu pour des raisons mécaniques. Alors j'en fus d'autant plus déçu que j'avais déjà eu l'occasion d'assister à une étape de travail aussi prometteuse que déjà fort aboutie, il y a déjà 5 ou 6 ans. Pas de problème cependant, j'ai pu me faire une idée précise de cette dernière création grâce à une captation vidéo obligeamment mise à ma disposition par Gueltaz Chauviré, metteur en scène de la compagnie Felmur et pour l'occasion co-auteur et comédien de cette dernière création, Paul, Louis, Suzy et moi. Alors la captation vidéo, ça c'était pour l'image, mais cette création a fait également l'objet d'un très beau vinyle édité en 2021 par Beck Rose Records et par le label Tandem. Un disque théâtre donc. Il n'en fallait pas moins pour rendre hommage au son de ce spectacle et en particulier aux compositions du musicien rennais Léo Prudhomme. On attaque donc tout de suite avec un extrait de ce spectacle, ça commence ainsi.
Témoignage de Louise sur la nuit du 21 juillet 1928. Au dispensaire, il fut constaté que l'enfant avait 38,8 de fièvre. Nous sommes sortis. Et une fois dans la rue, mon mari a dit qu'il avait soif et il a voulu entrer chez un marchand de vin. Je l'ai supplié de ne rien faire. Mais il a refusé. Je lui fis observer que l'enfant était malade. Il me répondit textuellement « Me fais pas chier !» Je suis alors rentré chez moi avec mon enfant pour lui donner les soins nécessaires. Mon mari est revenu vers 19h30. Il m'a demandé son album où se trouvaient les photographies le représentant en femme, puis il est ressorti immédiatement. Quelques heures plus tard, il est rentré de nouveau. Il était en état complet d'ivresse. En pénétrant dans la pièce, il est tombé à la renverse sur le lit. Et il s'est endormi. Puis sans doute sous l'emprise d'un cauchemar, comme il en faisait du reste depuis la guerre, il s'est mis à rugir, à s'agiter, donnant des coups de pied contre la cloison. Ça a dû le réveiller. Il s'est assis sur le lit et il m'a lancé 2 gifles avec le dos de la main parce que je m'étais couché auprès de lui. J'ai essayé de l'apaiser, mais il était toujours en état d'ivresse. Et le petit criait, moi, la peur de papa. Je lui ai dit, n'aie pas peur, il fait joujou avec maman. Enfin, au moment où penché sur l'enfant pour le protéger des mouvements désordonnés de mon mari, celui-ci me porta un violent coup dans le dos en s'écriant « Ça va pas recommencer ces 2 vaches-là !» Alors, comme le petit criait de plus en plus fort, et comme mon mari devenait de plus en plus agité, j'ai eu peur. Et prenant le revolver de mon mari qui était posé sur la cheminée, j'ai tiré.
Alors, le début qui est en fait la fin de l'histoire. Nous sommes en 1928, Louise, c'est Louise Landy, elle est jugée pour le meurtre de son mari, Paul Grapp. C'est la fin de leur histoire pour le moins accidentée qui défraya la chronique des années folles. Une histoire folle qui commence au début de la guerre 14. Paul Grapp revient du front mais ne veut plus y retourner. Avec la complicité de sa compagne Louise, il va se cacher au milieu de la foule. En se travestissant, Paul devient Suzy. Et puis découvre les joies coquines du bois de Boulogne pour des rencontres tarifées ou pas. Suzanne, voluptueuse, violente et perverse, recherche dame ou jeune fille, monsieur et jeune homme pour partager des caresses longues et savantes. Suzanne construit sa petite célébrité, on se l'arrache, Suzanne devient Suzy, Suzy la reine des bois. Paul Grapp vivra donc 10 ans de travestissement clandestin, auquel mettra fin une loi d'amnistie en 1925. L'histoire de Paul Grapp fait alors la une de la presse, mais les feux de la rampe s'éteignent bien trop vite pour Paul qui avait goûté aux joies de la célébrité. Il sombre dans une mélancolie violente et alcoolisée dont vous connaissez maintenant l'épilogue tragique. Donc cette histoire étonnante est pourtant quasiment oubliée. Gualtas Chauviré, lui, l'a découverte un matin de 2012 déjà, grâce à l'émission France Culture « La fabrique de l'histoire ». Qu'on peut d'ailleurs toujours écouter en podcast, hein, le titre de l'épisode c'est « Nous n'irons plus au bois ». Et de ce fait divers, Gualtas sent tout de suite qu'il y a matière à théâtre.
Dans ce fait divers, il y avait pour moi déjà ce mélange d'une personne qui veut se planquer et qui pour sa survie doit se planquer, qui trouve une solution pour sa survie qui est de la transgression. Mais la transgression arrive dans une nécessité de survie, déjà je trouvais ça chouette comme endroit de départ de la transgression. Enfin, ça remettait à la place aussi, la transgression, est-ce que c'est pas une question de survie? Et puis aussi, il y avait ce mélange de vie cachée et vie d'un coup qui devient célèbre parce qu'il a fait une des journaux pendant un temps et qu'ensuite, une fois que les un siècle plus tard, quand les historiens ont déterré cette histoire, c'est pareil, c'est une histoire qui a fait le tour des médias, des journaux et tout ça. Donc, voilà, ce mélange-là de personnes pas connues à la base, qui n'ont pas l'envie d'être connues et qui se retrouvent un révélateur de quelque chose dans leur société et dans les sociétés futures. Donc ça, c'était assez fascinant. La question que je me suis vite posée aussi, ça a été, et si cette histoire était devenue vraiment célèbre, était restée célèbre dès les années 1920 et n'avait pas disparu, qu'est-ce que ça aurait changé à notre société actuelle? Si c'est devenu, Paul et sa femme Louise, des personnes un peu, des figures emblématiques dans notre histoire, est-ce que ça aurait changé quelque chose à notre société?
Nous sommes en 2016, on commence le travail, l'histoire, on l'a. On la tient, et pour autant...
Avec Léo, après notre première journée de travail, on est arrivé à une conclusion qui était très simple, c'était, on a une super histoire, mais on n'a pas envie de la raconter.
Le fait est que c'est une histoire dense, croustillante à souhait. Alors comment lui trouver une forme qui dépasserait le simple récit, qui trouverait sa légitimité à être justement une forme de théâtre? Un processus d'écriture s'est finalement rapidement mis en place lors d'une première résidence de travail.
On s'est fixé des petites règles du jeu. On s'est dit que on a donc défini de façon un peu schématique au début, en point de départ, c'était pas un objectif à atteindre, mais en point de départ, on s'est dit voilà, on va faire différentes séquences. Il nous faut des séquences qui sont des séquences apartées, qui permettent de parler de choses qui sont arrivées à peu près à la même époque et qui racontent en creux l'histoire. On va faire des séquences immersives où là d'un coup on est avec les personnages, on est dedans. Des séquences qu'on a nommées paysages, qui sont des séquences qui nous permettent à l'esprit d'imaginer, de rêver, de laisser plus les sens parler que l'intellect, de toucher plus à l'endroit de nos sensibilités. Et il y aura des séquences factuelles, où ça permet de donner juste un minimum d'éléments qui permet à chaque personne dans la salle de faire son chemin.
Et de fait, Paul-Louis, Suzy et moi, c'est bien un puzzle dont l'assemblage est laissé à la sagacité autant qu'à la sensibilité du spectateur. La matière première du récit a été fragmentée. Ce n'est plus chronologique. Elle a été enrichie par un travail de recherche, incarné par le travail du comédien bien sûr, mais aussi, pourrait-on dire, poétisé. Des temps de respiration musicale qui viennent ponctuer le spectacle, dilatant ainsi l'horizon du Paris de l'entre-deux-guerres. Concernant la musique, j'ai pu m'étonner de l'envie de Gualtaz de travailler avec Léo Prudhomme, dont une partie de la création au moins irait flirter plutôt avec la musique folk américaine, a priori bien éloignée de l'atmosphère du Paris de l'entre-deux-guerres. Or, la découverte de la musique de Léo, pour Gualtaz, fut presque un déclencheur.
Léo devenait la clé, quoi. Ça ouvrait tout et ah, ok, j'ai trouvé. Ça devenait plus simple pour moi de me projeter dans ce projet en ayant écouté cette musique-là. Alors cette musique-là, c'était une tradition folk singer et c'était Léo, dans sa voix, a une puissance narrative très forte, évocatrice d'une narration. Alors il chante en anglais, donc si on ne parle pas anglais couramment, comme, et puis la musique globalement, ou je pense que la musique anglophone en plus, la parole n'est pas elle n'est pas, comment dire, devant. C'est un instrument de musique parmi les autres, quoi. Donc ça déjà, ça me plaisait aussi, c'est-à-dire une musique narrative qui ne passe pas par le texte pour raconter, où le texte n'est pas au centre. Je me suis dit, ça m'intéresse. Et puis il y a aussi toute la tradition où pourquoi la musique folk est arrivée, c'était pour raconter des histoires qui étaient arrivées au village d'à côté, ça se transmettait comme ça, et ça a permis à cette nation naissante de l'Amérique de se construire un imaginaire collectif, une histoire qui est teintée de légendes, de vrais faits historiques, tout ça, ça se mélange énormément, entre autres grâce à cette musique. Et que par rapport à ma question de départ, où je me suis dit, mais non, ces gens-là qui sont devenus invisibilisés, qu'on a invisibilisés dans l'histoire, s'ils avaient été restés visibles et même devenus iconiques, qu'aurait été notre histoire contemporaine? Ça rejoignait, parce que du coup, c'était... Et si quelqu'un avait fait la balade de Louise Landier et de Paul Grapp à l'époque, que ça s'était répandu de village en village, et de ville en ville comme ça, comment est-ce que ce mythe ne serait pas devenu comme le mythe de Bonnie and Clyde, le mythe de... Voilà.
Si la musique folk a bien cette dimension narrative, qui de vallée en vallée construit des légendes et au plateau participe à celle de Paul, encore le fera-t-elle en anglais? Encore une fois, les créations de Léo Prudhomme ne sont pas une redite de ce qui est raconté par Gualtaz. Non, c'est plutôt un contrepoint d'imaginaire americana qui passera plus par le ressenti de la musique, voix et instruments, que la compréhension verbale, une échappée d'un instant en somme. Et c'est justement le moment, je crois, pour notre pause musicale, avec évidemment un titre de Léo Prudhomme, mais pas du spectacle, non. On a deviné l'enthousiasme de Gualtaz pour la création de son camarade. J'ai donc choisi un titre de son album au nom peu marketé de From Speaking Parts to Blazing Rose, sorti en 2010 sur le label nantais Kitty Bong Records. C'est justement cet album qui a séduit Gualtaz.
Locked groove we fell in.
titre de l'album From Speaking Parts to Blazing Rose par l'artiste Léo Prudhomme. C'était le morceau Locked Groove. À toi, Renaud.
Revenons au plateau de Paul, Louis, Suzy et moi. Ils sont donc deux sur scène. Hein. Léo est entièrement voué au chant, à la guitare, à la mandoline et à l'harmonium indien. La parole, c'est le fait de Gueltaz qui joue tous les personnages, toutes les présences scéniques, devrais-je dire, puisqu'il y a une part de narration et une part de commentaire. Paul, Louis, Suzy et moi, c'est un projet qui a connu une gestation longue et qui est allé, pourrait-on dire, s'amincissant au fil de sa création, puisqu'au départ, Gueltaz avait pensé à faire appel à des auteurs de théâtre pour l'écriture et à deux comédiens, mais chemin faisant, c'est à deux qu'ils se sont sentis le mieux pour continuer. Pour distinguer les personnages, nul besoin ici de trop marquer le trait. Quelques indications sont suffisantes pour que le spectateur comprenne qui, de cette galerie de personnages, prend la parole. Pas de travestissement, donc, pas de caricature, car le risque était bien là. Ce n'est pas un costume drama, et le seul vêtement qui fasse véritablement costume sur scène, c'est un simple Marcel gris. Peut-être en écho avec ce qu'on pourrait imaginer d'un Marlou de la Belle Époque, encore que ni Gueltaz ni Léo n'en aient vraiment la carrure. Chacun aura donc eu l'imagination suffisante pour extrapoler les visages des personnages portés par la voix de Gueltaz. Ces différents personnages, c'est autant de petites trouvailles pour nous les faire imaginer. Pied de micro réglé trop bas par exemple, et c'est soudain Louise qui apparaît lors de son procès, voûtée parce qu'intimidée par les magistrats, c'est dans l'extrait qu'on a entendu au début de cette chronique, c'est aussi ce rideau satiné en fond de scène dont Gueltaz s'enveloppe juste un instant, et c'est alors la Suzy sensuelle dans ses étreintes amoureuses. En somme, The Less Is More, une simplicité, une certaine économie de moyens qui assure à l'ensemble une grande efficacité. La scénographie de Paul, Louis, Suzy et moi révèle un plateau intime, presque étroit. Elle est née d'une collaboration avec Jean-Pierre Giraud. Créer une scénographie, c'est encore et toujours se raconter une histoire où l'on entend parler à nouveau du rideau.
Il y a un rideau qui serait comme le rideau du devant de scène, qui n'est pas un rideau rouge, qui est un rideau très soyeux, un peu turquoise, qui pourrait ramener le cabaret, qui peut avoir d'autres couleurs que le rouge du théâtre ou le noir du théâtre. La petite guirlande qui est comme une avant-scène devant ce rideau. Et puis nous, du coup, c'est comme si on était dans la fosse. On est devant cette scène, devant ce rideau. On va jouer pour vous la grande histoire de Paul Grapp, la grande histoire de Suzanne, la grande Suzy. Et nous, on est juste là comme des battleurs ou je sais pas, des gens qui annoncent le spectacle que vous ne verrez jamais, parce que le rideau ne s'ouvrira jamais.
Et de fait, on retrouve bien cette ambiance de cabaret. On imagine bien aussi une baraque de foire, de celle où des battleurs promettaient érotisme bon marché, femme à barbe et autres curiosités. Car Paul Grapp fut bien une curiosité de son époque.
Paul Grapp voulait prendre un agent et raconter son histoire et puis devenir célèbre. Donc le côté bête de foire qu'il souhaitait devenir, ou le côté... je vous raconte la fabuleuse histoire de ce qu'il aurait aimé qui existe, c'est comme si on allait le faire en fait.
Et ils le font plutôt bien. Ce qui se joue donc devant ce rideau, ce qui s'est joué pendant une heure, dans cet espace accaparé par ces deux battleurs, c'est l'histoire de Paul, alias Suzy. Cette histoire qui, bien qu'ayant défrayé la chronique, a totalement disparu. Une histoire posthume en quelque sorte, comme un tombeau érigé pour Paul Grapp. Cette histoire étonnante s'il en est, histoire d'un homme violent mais aussi violenté par la guerre, histoire de mœurs, histoire de genre et de transgenre, histoire homicide, histoire féminicide, c'est un concentré de thèmes que la morale, le récit national a repoussé sous le tapis. Force est de constater que pourtant elle entre en forte résonance avec notre époque où ces thèmes n'ont peut-être jamais eu autant de présence dans le débat public. À défaut de voir cette saison Paul, Louis, Suzy et moi, peut-être aura-t-on la chance de la voir la saison prochaine dans le coin, qui sait. En tout cas, on pourra découvrir cette pièce grâce à cet étrange objet, cette belle édition discographique de la pièce. C'est édité chez Beck Rose Records. Et dans le prolongement du spectacle, notons aussi la version BD avec ce très bel album ou roman graphique de Chloé Cruchaudet, Mauvais genre, paru aux éditions Delcourt en 2018. Bon vent à Paul, Louis, Suzy et moi, et avis aux programmateurs.
Merci Renan, vous êtes paré avec une bande dessinée, deux disques, un spectacle, la totale, et même un podcast de France Culture. À bientôt Renan,
à bientôt.
Merci.
While it was impossible for you to come down.
unknown soldier at an old friend's party. And then think of my past, with all those students, old and busy.
La session info-concert du jour, Crème de la Crème vous proposera deux soirées le samedi 20 mai, l'une à la Mimobile avec Naïm Amor et puis l'autre à la ferme de Quincé pour la fête de la Bretagne. Et puis on terminera l'émission et les info-concerts tout à l'heure avec une soirée bien mélangée qui vous est proposée par les Trans à l'Ubu le 8 juin prochain. Mais on commence immédiatement avec Naïm Amor, qu'on connaît pour être l'un des deux membres du duo Amor Bellum Duo. Il est parti s'installer en 1997 du côté de l'Arizona et a frayé assez rapidement avec les musiciens du coin, hein, Joey Burns, John Convertino de Calexico. Et c'est avec John Convertino d'ailleurs qu'on va l'entendre dans un instant. Gabriel Amor qui revient pour quelques temps en France et qui donnera un concert à la Mimobile à Rennes, près d'Alphonse Guérin, près du pont de Strasbourg et des plages de Beau. Ce sera le samedi 20 mai. On écoute Gabriel Naïm Amor avec ce titre Blackfoot Shuffle, accompagné donc par John Convertino de Calexico. Naïm Amor, on l'entendait à l'instant en duo avec John Convertino de Calexico. Il revient pour un temps de son escapade américaine. Il s'est installé du côté de l'Arizona en 1997 et il sera à Rennes à la Mimobile le samedi 20 mai. Le même soir, la ferme de Quincey vous convie à une fête de la Bretagne assez expérimentale puisque vous y retrouverez, outre les sélections DJ de Maître Selecto, de Jean Carval ou de Trans Arguaise, et bien les lives de René Danger pour du Guerz Dub Cheap Trad, et puis aussi le Diable Dégoûtant. Ça vient de Belgique, mais c'est pourtant des musiques inspirées des musiques bretonnes. Et puis il y aura aussi Petra à la harpe celtique. On écoute le Diable Dégoûtant, invité par le collectif 35 volts à la ferme de Quincey le samedi 20 mai pour la fête de la Bretagne. Thank you. C'était à l'instant dans les infoconcerts de Crème de la Crème sur Canal B, Le Diable Dégoûtant pour un set dark trad à retrouver le samedi 20 mai. Ce sera à partir de 16h pour cette fête de la Bretagne un peu expérimentale proposée par la ferme de Quincé. La session infoconcert se termine maintenant avec cette soirée bientôt l'été proposée fièrement en fin de saison par l'Ubu. Ce sera le 8 juin où vous retrouverez Célélé au platine et puis aussi Kaboché. Là, c'est une ambiance plutôt musique africaine avec le Kenyan Kaboché du label Niégué Niégué, entre pop expérimental, électronique et coloré. Et puis aussi, vous retrouverez le post-punk des Anglais de Lummer, avec lesquels on va terminer cette session info-concert. Toutes les infos autour de bientôt l'été, le 8 juin à l'Ubu, sur lestrans.com. Nous, on se retrouve mardi de 18h à 19h pour une nouvelle émission Crème de la Crème. Retrouvez la playlist et puis la réécoute de l'émission sur canalb.fr. Ciao!